Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Семья Виктории Шмидт уже всерьез задумалась о возвращении в Россию.
Bonjour à tous. L'Europe va mal, c'est un fait. C'est aussi un slogan pour des campagnes populistes bien orchestrées. Nigel Farage, leader du parti pro-Brexit UKIP, démissionnaire aujourd'hui de sa formation, en sait quelque chose. Il compte un certain nombre de disciples au sein de l'UE, mais aussi en dehors. En Russie, la défiance envers l'Europe n'a jamais atteint de tels sommets. Le différend ukrainien et les sanctions économiques contre Moscou, ils sont pour beaucoup, mais pas seulement. Les médias russes véhiculent l'image d'une Europe plongée dans le chaos en raison de la crise migratoire. Une Europe gouvernée par des dirigeants impuissants. Pour faire passer ce message sans nuance, tout est permis, y compris les mensonges. C'est le reportage à Moscou d'Étienne Bouche.
S'informer à travers les grandes chaînes de télévision, c'est une expérience singulière en Russie. Esprit subtil, s'abstenir. Mêlant images, chocs, témoignages édifiants et commentaires approximatifs, la télé russe donne de l'Europe une image si anxiogène qu'on voudrait ne plus jamais y mettre les pieds. En Russie, les reportages baroques sont dans tous les journaux télévisés. Cela va du petit arrangement avec la réalité au gros bidonnage. Friedrich Schmidt est le correspondant du journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung. Il revient sur un exemple typique de désinformation. C'était au mois de janvier.
Les médias russes, la télé notamment, ont prétendu qu'il y aurait eu un viol d'une jeune fille d'origine russe à Berlin par des migrants ou des réfugiés, alors que la police a démenti tout de suite qu'un tel crime ait eu lieu. C'était pas seulement la télévision étatique qui a participé, mais c'était aussi le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui a parlé de notre fille Lisa qui a souffert, etc. Alors cette histoire visait à la fois le public russe, en jouant sur cette narrative que la fin de l'Occident s'approche à des grands pas, et les publics étrangers, parce que c'était une tentative d'influencer les Allemands d'origine russe en Allemagne et d'aggraver la méfiance contre les médias et les autorités du pays.
La télévision insiste systématiquement sur les difficultés des pays européens face à l'afflux massif de migrants. Des difficultés réelles, mais abordées sans nuance ni contexte. Les méthodes de la télé russe sont d'ailleurs régulièrement épinglées par les journalistes occidentaux. Et pourtant, on pourrait croire que l'avenir du journalisme se joue à Moscou. Au début du mois, un forum se tenait dans la capitale. Adieu au mainstream, organisé par l'agence Rassiya Sivodnia, une machine médiatique pilotée par le pouvoir. Un forum international auquel s'est d'ailleurs invité Vladimir Poutine. Le président russe en a profité pour rappeler l'importance de l'objectivité. La remarque est prête à sourire quand on connaît Rassiya Sivodnia et sa manière de traiter l'information. Son directeur, Dmitri Kisilyov, enfonce le clou. Pour lui, la Russie incarne une alternative face à la mainmise de l'Occident sur l'information. Considéré comme le grand Manitou de la propagande, il fait partie des personnalités russes sanctionnées par l'Union européenne. Ce présentateur vedette anime une émission hebdomadaire sur une grande chaîne nationale.
Notre agence, comme la télé russe d'ailleurs, représente un point de vue alternatif qui répond aujourd'hui à une demande dans le monde. C'est pourquoi nous sommes l'agence la plus reprise à l'étranger. Nos statistiques progressent et RT, Russia Today, devient de plus en plus populaire.
Des affirmations difficilement vérifiables. Contrairement à l'Europe, la Russie n'est pas concernée par l'exode de population du Moyen-Orient. Mais cette vision catastrophiste relayée par les grandes chaînes de télévision est aujourd'hui partagée par la majorité des Russes. L'Europe serait envahie et incapable de défendre son identité et sa culture. Un traitement médiatique qui induit une conclusion. La situation en Russie n'est pas si mauvaise. Karina Pipia, sociologue au centre d'études Levada.
À cause de l'inquiétude croissante liée à la crise économique dans le pays, la question des aides sociales, des salaires, des retraites, il est nécessaire de trouver un nouveau sujet qui détournera la population des problèmes essentiels. Le thème de l'immigration peut jouer ce rôle alors que les élections législatives approchent. Il risque d'être une fois de plus exploité par les partis politiques.
I found a huge disconnect
exploités par les politiques et par les médias qui cherchent à discréditer un autre fonctionnement politique. Une manière de légitimer la politique russe aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Pour renforcer son influence, notamment en Europe, le pouvoir russe a investi dans des médias émettant en plusieurs langues. Il les utilise pour relayer sa vision du monde. À l'antenne, la contradiction et le débat réel sont quasiment inexistants. C'est d'autant plus préoccupant qu'en Russie, la télévision est la principale source d'information de la majorité de la population. Il existe bien une presse écrite de qualité, mais elle s'amenuise en raison du durcissement de la législation encadrant les médias.
La corruption tue. C'est sur ce cri de colère que les Roumains ont forcé le gouvernement de Victor Ponta à la démission en novembre dernier après la mort de 56 personnes dans l'incendie d'une discothèque. Victor Ponta qui revient aujourd'hui à la une de l'actualité. Le Conseil national d'attestation des titres universitaires vient de confirmer que la thèse de doctorat de l'ancien Premier ministre était bien un plagiat, un délit qui est loin d'être exceptionnel dans le pays. À Bucarest, Jonas Mercier.
Le Conseil national d'attestation des titres universitaires n'est pas prêt de partir en vacances. Depuis le mois de mars, c'est le seul à pouvoir dénoncer le plagiat d'un travail académique. La semaine dernière, pour sa première sortie en public, il a confirmé les soupçons qui planaient sur la thèse de doctorat de l'ancien Premier ministre Victor Ponta. Il s'agit du dénouement d'une affaire qui aura tenu en haleine l'opinion publique pendant 4 ans. En juin 2012, c'est la revue scientifique de langue anglaise Nature qui avait la première dévoilé le plagiat. Et déjà à l'époque, le Conseil national d'attestation des titres universitaires avait confirmé la tricherie. Mais le gouvernement, conduit par le même Victor Ponta, avait immédiatement dissous ce conseil et lui avait ôté toute prérogative. Son titre de docteur universitaire n'avait finalement pas été remis en question. Aujourd'hui, plus personne ne semble à l'abri. La thèse de l'actuel ministre de l'Intérieur et ex-chef de la police roumaine, ou encore celle du procureur général adjoint de Roumanie, sont les prochaines à être vérifiées. Le grand ménage ne fait que commencer.
Le vivre ensemble, voilà 20 ans, depuis la fin de la guerre des Balkans, que les habitants de Bosnie-Herzégovine l'expérimentent au quotidien. Avant 1992, Serbes orthodoxes et Bosniaques musulmans cohabitaient en paix, mais depuis la guerre, les massacres et le nettoyage ethnique, il faut réapprendre à vivre sur le même territoire. Reportage à Trebinje, dans le sud-est du pays, signé Simon Reco.
Coincé entre le Monténégro et la Croatie, à moins de 20 km de la côte adriatique, la ville de Trebinje a des petits airs de Provence, avec sa place centrale pavée, plantée de platanes centenaires et bordée de charmants cafés. Pourtant, il y a un peu plus de 20 ans, c'est dans ce décor idyllique que les nationalistes serbes de Bosnie ont commis certains des pires crimes du nettoyage ethnique. Fervent orthodoxe, Bojana Rančić a toujours défendu ses voisins musulmans sans penser aux risques qu'il encourait.
Autrefois ici, on vivait normalement, vous savez. On avait des voisins et puis du jour au lendemain, ils ont dû partir sans que l'on sache où, sans que l'on sache ce qui allait leur arriver. 90% des gens d'ici ont été tristes, mais ils avaient très peur. C'était la terreur, les gens se taisaient. Je parle des orthodoxes. Ils étaient tristes, mais ils n'osaient rien dire. Il y avait de très fortes pressions, il n'y avait plus de loi.
20 ans après la fin des combats, bien peu de Bosniaques sont revenus vivre à Trebinje. En 1991, ils représentaient 20% des habitants de la ville. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de chiffres officiels, mais seuls les plus anciens rentrent une partie de l'année dans la région où ils sont nés. Chaque vendredi, ils viennent prier à la mosquée Osman Pacha, tout juste rénovée. Parmi eux, il y a sa fête, la soixantaine.
Je vis désormais dans deux endroits, en Suède et au Danemark. Mais Trebinje est ma ville natale. Cela marche si chacun reste chez soi. Si chacun fait ses affaires, il n'y a aucun problème. Ici, nous nous connaissons tous. Il n'y a que les politiciens là-haut qui créent de fausses divisions. Les gens sont normaux, eux, mais le problème ici, c'est qu'il n'y a pas de travail.
S'il y a bien un homme qui a œuvré à la réconciliation entre Serbes et Bosniaques, c'est l'ancien imam Hüseyin Hodžić. À son arrivée à Trebinje en 2001, les tensions restaient vives. À l'époque, les 22 mosquées que comptait la ville avant la guerre étaient encore détruites. Pour restaurer la confiance entre les différentes communautés, l'imam a lancé leur reconstruction en faisant appel à tous les volontaires, qu'ils soient orthodoxes ou musulmans.
Pour moi, le plus important, c'est d'avoir obtenu la confiance de la mairie, des citoyens, des différentes communautés et de l'église orthodoxe serbe. Ma plus grande récompense, c'est que tous les citoyens de Trebinje me considèrent comme quelqu'un d'honnête. J'ai pu reconstruire les mosquées qui avaient été détruites, les rendre comme elles étaient autrefois. C'est mieux pour tout le monde, pour que les gens arrêtent de toujours repenser à ce qui s'est passé.
Pour rebâtir les mosquées, l'imam Hodžić a pu compter sur l'indéfectible soutien de Bojana Rančić. Au début, le sexagénaire venait sur le chantier armé d'un pistolet et d'une hache, de peur de se faire attaquer. Puis au fur et à mesure, les relations se sont apaisées et les orthodoxes de Trebinje ont même défendu la mosquée du centre-ville quand des hooligans venus de la capitale de l'entité serbe de Bosnie ont voulu détruire le bâtiment.
Des supporters de foot de Banja Luka sont venus ici pour le match entre leur club, le Borac, et le nôtre, le Leotard. Ils se sont rassemblés devant la mosquée encore en reconstruction et ceux de Banja Luka voulaient attaquer le chantier. Les gens de Trebinje leur ont dit « Ne touchez pas à la mosquée, c'est notre mosquée ». Certains avaient peut-être expulsé les musulmans en 1992, mais le temps a passé. Ils ont pris conscience et ils ont compris que c'était une richesse commune de la ville.
Pendant la guerre, les forces serbes avaient bombardé les Croates de Dubrovnik depuis les hauteurs de Trebinje. Aujourd'hui, les touristes qui visitent la perle de l'Adriatique sont de plus en plus nombreux à venir découvrir les charmes de la Bosnie méridionale. Le Serbe Jarko Vico travaille à l'office de tourisme. Il se réjouit de pouvoir présenter les lieux de culte de ses voisins musulmans.
La grande mosquée, la mosquée Osman Pasha, a été rénovée en 1999 et l'autre mosquée, celle de Sultan Ahmet, vient de l'être il y a 2 ans. Elles sont de plus en plus ouvertes au tourisme. Il y a 2 jours par semaine où tout le monde peut les visiter, alors qu'autrefois ce n'était possible que pour des groupes sur rendez-vous.
Après 15 ans de bons et loyaux services, l'imam Hussein Hodžić a quitté Trebinje, mais il revient régulièrement rendre visite à son ami Bojana Rančić. C'est même à celui-ci qu'il a confié les travaux de sa nouvelle maison. La preuve que malgré les blessures, malgré les différences, les liens se retissent peu à peu entre les ennemis d'hier.
Et puisqu'il est question de réconciliation, cette année de centenaire des batailles de Verdun et de la Somme, difficile de ne pas parler de la France et de l'Allemagne. Comment les deux pays voient-ils aujourd'hui 14-18? C'est tout l'objet du livre « La Grande Guerre vue d'en face », publié sous la co-direction de l'historien Arndt Weinrich. Il a expliqué à Catherine Roland que les deux pays ne regardaient pas du tout ce conflit avec la même perspective.
Là, il y a vraiment une différence tout à fait fondamentale. La France fait une guerre franco-allemande, alors que l'Allemagne fait une guerre mondiale contre un monde rempli d'ennemis. Et la France n'est finalement qu'un ennemi parmi d'autres, et assurément pas celui qu'on craint le plus.
Aussi, ce qui est intéressant, c'est que cette première guerre mondiale n'est pas vue du tout de la même façon de chaque côté du Rhin, notamment du côté des populations civiles.
Vous savez, alors qu'en France, évidemment, cette mémoire des combattants de la première guerre mondiale, des poilus, reste donc une ressource symbolique extrêmement importante. C'est beaucoup plus complexe outre-Rhin, où effectivement, après 1945, donc après la défaite, la culture politique et les politiques de mémoire se sont très largement démilitarisées et mettent l'accent donc sur les victimes civiles et notamment sur les juifs qui ont été victimes de la barbarie nazie. Donc du coup, tous les soldats allemands tombés pendant la première moitié du XXe siècle, et notamment les soldats de la Première Guerre mondiale, sont passés à la trappe et ne sont pas forcément considérés comme des victimes légitimes qu'on commémore encore aujourd'hui.
Revenons un petit peu plus au cœur de cette Première Guerre mondiale, avec ses côtés novateurs, malheureusement. Parce que ce qui est intéressant, en fait, c'est la mise en place de la propagande, déjà à l'époque, à travers la publicité, les cartes postales aussi, beaucoup, et puis la caricature.
Effectivement, il faut beaucoup insister sur le fait que la Première Guerre mondiale est bien la première guerre moderne, où vraiment le fait de donner à voir la guerre, de donner à voir l'ennemi, de miser sur une propagande visuelle, joue énormément. dans la mobilisation des populations d'une part et d'autre du front. Tous les supports visuels finalement sont concernés, les cartes postales, les images, les photos, les gravures, pour donner à voir justement l'ennemi et le conflit, les combats tels qu'ils se déroulent sur le front.
Et puis il y a aussi la censure, évidemment, la censure des photographies, des photographes de guerre, et puis des lettres aussi venant des tranchées. Pas question évidemment que les civils à l'arrière sachent vraiment ce qui se passe réellement. Et ça, c'est des deux côtés de la frontière.
Ça, c'est des deux côtés. Donc, le dispositif de censure qui se met en place suite à la déclaration de la guerre ou de l'état d'urgence devient, dans les deux cas, assez souvent une censure politique qui ne fait pas juste en sorte que les informations pertinentes sur le plan militaire ne soient pas divulguées, mais qui essaye de faire tout pour monter le moral des soldats et de la population à l'arrière. Après, il y a cette idée que finalement, la guerre était invisible, ou était beaucoup moins invisible qu'on a longtemps eu tendance à le penser. Elle est beaucoup plus visible, en tous les cas, en France qu'elle ne l'est en Allemagne, où effectivement un effet de censure beaucoup plus appuyé fait en sorte d'écarter toute image susceptible d'entamer le moral de l'arrière. Il y a des périodiques, notamment en France, Le Miroir, qui mise massivement sur les photos prises par les combattants et qui donne parfois une vision tout de même assez crue de la guerre. Donc en France, on voit notamment beaucoup de cadavres allemands, mais il ne faut pas sous-estimer évidemment les lecteurs de l'époque qui pouvaient se dire que les mêmes images pouvaient aussi être prises de l'autre côté du front.
En conclusion, est-ce peut dire que Français et Allemands n'ont pas du tout la même mémoire de cette Première Guerre mondiale, même si les soldats dans les tranchées ont vécu la même chose?
Voilà, l'expérience combattante est la même. Même si là encore, il faudrait peut-être nuancer un peu, les soldats allemands ont beaucoup plus, vers la fin de la guerre, fait l'expérience de la pénurie, notamment alimentaire, qui n'a pas vraiment été un phénomène qui a frappé les soldats du côté allié. Donc effectivement, expérience combattante, on vit à peu près la même guerre, même s'il ne faut pas non plus négliger le fait que les Allemands, ils se battent sur plusieurs fronts. Il y a pas mal de soldats qui ont combattu à l'Est, au Sud d'Europe, du coup, qui ont quand même une expérience combattante assez différente de celle qu'ont pu avoir la plupart des Français qui se sont battus sur le front franco-allemand, finalement le front occidental. Après, et là la question du vainqueur et du vaincu a forcément eu un impact primordial, les mémoires françaises et allemandes suivent des trajectoires tout à fait différentes, et notamment aussi la césure fondamentale de la Seconde Guerre mondiale qui va, encore une fois, faire en sorte que la mémoire de la Première Guerre mondiale, qui reste très présente en France, sera reléguée au second rang en Allemagne.
La ville de Florence en Italie a un nouveau musée, pas de peinture du Quattrocento ici, mais des traces de vie. Le musée des Innocents raconte le parcours de ces enfants orphelins et abandonnés au travers des objets et des archives de ce bâtiment qui fut le plus ancien lieu d'accueil du pays. Visite avec Mathilde Villain.
C'est un musée roman, un livre ouvert qui raconte les vies des enfants abandonnés au fil des siècles. Le musée des Innocents vient d'ouvrir ses portes à Florence, dans l'un des plus anciens orphelinats du chef-lieu de la Toscane. Des objets, des registres, des œuvres conservées précieusement au fil des années ont servi de clé pour reconstruire les parcours des enfants avant et après l'orphelinat. On découvre que des parents cachaient parfois dans les langes une petite médaille, un crucifix, un morceau d'étoffe ou de coquillage, afin de permettre, s'il le fallait, un jour, d'identifier leur enfant. On découvre aussi des lettres rédigées par des inconnus ayant recueilli un enfant abandonné et le confiant aux bons soins du Spedale degli Innocenti, l'hôpital des Innocents, c'est ainsi qu'était appelé l'orphelinat à Florence. 13 551 documents d'archives ont permis de retracer, par exemple, l'histoire de la petite Lucia Caterina. Abandonnée à tout juste un mois en 1446, elle a été confiée à une famille aisée, puis à une nourrice du Val d'Arno, et enfin à un cordonnier qui devait l'élever comme sa propre fille. La conservatrice du musée des Innocents se félicite même d'avoir retrouvé l'inventaire de la dot de Lucia Caterina lorsqu'elle se maria. Des histoires de vie sans histoire auxquelles il est pourtant difficile de rester indifférent, comme face à ce bouton de chemisier cassé en deux et glissé dans un couffin par une maman désespérée, dans l'espoir de pouvoir un jour revoir son enfant.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Mathieu Salabert. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr et les réseaux sociaux. À demain.